J'ai beau multiplier les prédications, les préparations, c'est toujours avec le même sentiment d'incapacité, même sentiment d'impossibilité parfois, que je me tiens devant vous. Et ce matin, c'est comme d'habitude un peu la panique, mais le Seigneur est bon. Lorsqu'on devient des chrétiens professionnels, lorsqu'on devient des prédicateurs professionnels, alors il y a beaucoup de compétences, mais bon. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour, on en parle facilement aujourd'hui. L'amour de Dieu, on en parle beaucoup dans les assemblées. Et je ne suis pas sûr qu'on ait compris 1% de ce qu'est l'amour de Dieu pour nous. Je crois que si nous avions découvert beaucoup de l'amour de Dieu, nos vies seraient transformées de façon radicale. Les obstacles disparaîtraient immédiatement. La puissance serait présente. Et tout ce qui va avec serait présent. J'aimerais partir de deux versets. Le premier se trouve dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Soyez donc sages au verset 7 pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité ou l'amour agapé couvre une multitude de péchés. J'aimerais aller dans Proverbes. Nous avons un verset qui est sensiblement identique. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Je crois que dans ces versets, nous avons l'essence de l'amour de Dieu. Nous avons un concentré de l'amour de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit ces choses. Ce n'est pas moi. La parole de Dieu est inspirée par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu déclare donc le cœur de Dieu et sa nature. Et si la parole nous donne ces enseignements, c'est que Dieu lui-même les met en pratique, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que ce que Dieu nous demande de faire, d'avoir de la charité et de couvrir les fautes, d'avoir de la charité et de ne pas révéler les fautes pour ne pas diviser, alors Si Dieu nous demande de faire cela, ça veut dire que lui-même le fait à nous, ou qu'il l'a fait à son peuple. C'est que c'est une façon de fonctionner de notre Dieu. Dieu, donc, couvre nos fautes. Et Dieu ne va pas venir révéler et réveiller chez nous nos fautes pour apporter la discorde et pour nous rendre encore plus malheureux. Je ne sais pas quelles sont vos relations au travail avec vos collègues. C'est assez rare de voir les collègues couvrir vos fautes. N'est-ce pas, lorsque vous faites un faux pas, ah, vous pouvez être sûr qu'ils ne vont pas vous rater. C'est une norme de fonctionnement dans le monde aujourd'hui. Ah oui, t'as pas été fort hein, la fois dernière. Hein. T'as pas été très bon. Hein. Enfin, ça ira mieux la prochaine fois. N'est-ce pas? La tendance de l'homme, c'est toujours de se trouver mieux que l'autre. C'est toujours essayer de dévaloriser l'autre d'une façon ou d'une autre pour que soi-même, on puisse se sentir un peu mieux. Finalement, ça montre quoi? Juste une grande souffrance. Une grande incapacité à accepter ce qu'on est réellement, c'est-à-dire une succession d'échecs. Le monde se construit, les gens se construisent dans le monde simplement au travers d'une succession d'échecs. Ils apprennent par leurs erreurs. Et ils se forgent un caractère par ces erreurs. Ils se forgent une façon de voir le monde. Et ils apprennent à vivre dans leur environnement. Ils apprennent à s'en sortir, à éviter des pièges. Et surtout, ce qu'ils apprennent, c'est à se passer de Dieu, à vivre sans Dieu, à ne pas avoir besoin de le rechercher. Si nous n'avons pas reçu en nous l'amour divin, nous sommes incapables de le transmettre. Nous sommes incapables de donner quoi que ce soit de divin si nous n'avons pas reçu en nous l'amour de Dieu. Est-ce que nous avons reçu l'amour de Dieu? Et si nous avons reçu l'amour de Dieu, est-ce que notre façon de fonctionner est celle dont il est question dans ces versets? L'amour couvre une multitude de fautes. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas couvrir les fautes des autres personnes, de notre environnement. Dans notre foyer, dans l'église, de nos collègues de travail, si nous n'avons pas reçu en nous l'amour divin et donc la certitude que Dieu a agi dans notre cœur. Dieu ne nous aime pas parce que nous l'aimons. Dieu nous aime parce que rien du tout. Il nous aime parce qu'il nous aime. Nous verrons ça plus en détail tout à l'heure. Parfois, nous nous comportons en ennemis de Dieu. Mais la parole de Dieu nous enseigne que nous devons aimer nos ennemis. Ce qui revient à dire que si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous n'aimons pas Dieu. Dieu veut que nous nous aimions à cause de ce qu'il a fait en nous. Je vais faire trois parties. La première, je vais essayer de montrer comment Dieu abonde dans son amour pour nous. Dans la deuxième partie, nous verrons que Dieu nous aime d'un amour qui est surnaturel. Et enfin, nous allons voir que Dieu aime ses ennemis. Allons dans Luc 7, au verset 47. Donc c'est l'histoire où Jésus est allé chez Siméon, le pharisien, Simon. Le pharisien, et où là, une femme de mauvaise vie se répand d'amour pour Jésus. Et je vais lire à partir du verset 24. Vois-tu cette femme ? Il dit à Simon, donc, « Vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds, c'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ailleurs, il est dit, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Je pense que cette femme a ressenti la bonté de l'Éternel plus que n'importe qui. Elle avait la conscience de la profondeur de son péché. Quand Jésus a dit « Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. » Cette femme savait à quel point elle était pécheresse. Elle savait à quel point, elle avait pris conscience à quel point elle avait besoin d'aimer Dieu. Et à quel point, sans même imaginer le pardon, mais elle avait besoin de se rapprocher de Jésus, parce qu'elle savait que c'était là qu'il fallait qu'elle aille. Le pardon, Jésus ne lui avait pas dit qu'il lui donnerait. C'est une des conséquences de son attitude. Elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu aime peu. Il y a des gens qui n'ont pas conscience d'avoir beaucoup péché, d'avoir fait beaucoup de mauvaises choses. y a une repentance pour un péché. On demande pardon et Dieu pardonne parce qu'il est généreux. Mais là où il y a beaucoup de péchés, là où il y a, je ne parle pas nécessairement des gens qui ont fait beaucoup de mauvaises choses dans leur vie, je parle de ce travail qu'on laisse faire au Saint-Esprit qui vient, qui rentre dans le fond du cœur et qui montre jusqu'au fond quelle est la nature pécheresse de l'homme. Lorsqu'on laisse le Saint-Esprit faire cela, tout d'un coup on se rend compte qu'on a beaucoup péché, que notre transgression est immense et qu'on a besoin d'un grand pardon. Dieu pardonne beaucoup. Il est généreux et abondant dans son pardon. N'est-ce pas, c'est le caractère de Dieu que de vouloir nous pardonner. Est-ce que nous avons pris conscience de cela? Est-ce que comme Jésus a porté son regard sur cette femme, est-ce que nous avons conscience que Dieu a porté, a posé son regard sur nous? Est-ce que nous avons conscience que Dieu est venu près de nous et qu'il nous a étreints? Est-ce que nous avons pu lui donner un baiser, nous répandre à ses pieds? Ou est-ce que là tout est fermé? Ou est-ce que là tout est cadenassé? Parce qu'on ne peut pas aller trop loin, n'est-ce pas? On va me regarder dans l'église ou dans ma famille. Il ne faut pas que je change de trop quand même. Est-ce que vous êtes laissé aller dans l'amour de Dieu? Est-ce que vous êtes rendu compte que Dieu, dans sa pureté infinie, s'est approché de vous pour vous faire du bien? L'amour de Dieu est abondant. L'amour de Dieu est abondant. J'aimerais que nous lisions dans 2 Samuel. 1. Verset 17. Je vais lire jusqu'au verset 27. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre, devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants. L'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos habits, comme des héros, sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes, comme des héros, comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Dieu avait profondément inspiré David pour écrire ce cantique. Ce cantique montre ce qu'est l'amour surnaturel. Ce cantique montre comment Dieu aime et finalement comment cet amour nous est complètement étranger. Je disais avant, on se critique facilement lorsque vous voyez dans certaines familles, les frères entre eux, à table, lorsqu'ils se parlent, c'est pour beaucoup se critiquer. C'est très rarement qu'il y a des mots pour élever, à tel point qu'on est parfois obligé d'interdire à certains de parler, sauf si c'est pour dire du bien. Ou pour élever la personne qui est à côté de soi. Apparemment, ça rappelle des choses à certains. N'est-ce pas? Et lorsque, dans une société ou dans un endroit, en plus de ça, la personne est franchement désagréable, elle est franchement pas aimable, raison de plus. N'est-ce pas? Et là, j'aimerais vraiment que nous pensions chacun aux situations dans lesquelles nous avons pu être, et je m'inclus. Qu'est-ce qu'on dit des personnes qui nous cassent les pieds? Comment est-ce qu'on les traite? Quelle est notre attitude vis-à-vis? Est-ce qu'on va les élever? Lorsqu'il leur arrive un malheur, est-ce que on est attristé pour eux? Ou est-ce que quelque part on se dit finalement c'est bien fait, tu l'as bien cherché, quoi? Comment est-ce que nous traitons les gens que nous ne supportons pas autour de nous? L'aspect surnaturel de l'amour de Dieu, c'est ce qu'il a inspiré au cœur de David. Vous savez ce que Saül a fait à David? Vous savez comment Saül a poursuivi David parce qu'il voulait le tuer? Vous savez que Saül était un poison dans la vie de David pendant des années. Et voilà qu'il meurt. Saül aurait pu dire, « Oh joie, merci mon Dieu, tu m'as délivré de mon ennemi. Tu m'as délivré de celui qui vraiment en voulait à ma vie. » Saül a eu ce genre. David a eu ce genre de prière pour le Seigneur, mais la délivrance était autre. Ici, c'est un hommage que David rend à Saül. C'est un hommage merveilleux. Il n'y a pas une seule parole négative. Il n'y a rien dans son discours qui pourrait faire penser qu'une seule fois David avait eu une mauvaise pensée contre Saül. N'est-ce pas? Lorsque nous rencontrons des problèmes ou des gens avec des problèmes ou qui nous causent des problèmes, qu'est-ce que nous faisons? Verset 20. Ne l'annoncez point dans Gath. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Ne l'annoncez point dans Gath. Quelqu'un a chuté. Quelqu'un a fait une faute. Quelqu'un n'a pas fait ce qu'il fallait ou ce que j'attendais qu'il fasse. Et je vais le pointer du doigt et je vais le dire à tout le monde et le montrer. Ainsi tout le monde le saura, y compris la puissance de l'ennemi, y compris le malin qui pourra se réjouir. Dieu dit, ne l'annoncez point dans Gath, ne le dites pas, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Nous rendons service aux malins si nous faisons cela. Ne l'annoncez point. L'amour de Dieu couvre une multitude de fautes. Un autre aspect de l'amour extraordinaire et surnaturel de Dieu se situe juste après. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. C'est là une figure de l'amour de Christ pour nous. Mais c'était aussi la réalité qui unissait ces deux hommes. N'est-ce pas ? Ils avaient beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Mais aussi et au-delà de tout, ils avaient fait un serment devant Dieu. Ils avaient fait un serment devant l'Éternel, un pacte d'amitié qui les soudait définitivement l'un à l'autre, de sorte que l'un était l'extension de l'autre et l'autre était l'extension de l'un. Il n'y avait pas possibilité pour que l'un dise du mal de l'autre. Est-ce que nous aimons Dieu au-delà de l'amour que nous avons pour nos proches, pour nos époux, nos épouses? Est-ce que nous avons placé Dieu au centre de tout? Le secret de la vie de couple, c'est quoi? C'est quand chacun a une relation avec Dieu. Deux relations comme ça peuvent s'unir en bas. Si on essaye d'abord de s'accommoder ensemble et ensuite de monter vers Dieu comme ça, ça ne marche pas. Chacun avec Dieu, sa relation. Et alors, les conséquences se voient dans le couple, dans la vie de couple de tous les jours. Si vous rencontrez des gens qui ont des problèmes de couple, dites-leur de mettre en règle leur relation avec Dieu. C'est ça qui ne va pas. Est-ce que nous avons fait un serment, un pacte avec Dieu? Est-ce que nous lui avons dit, tu m'appartiens et je t'appartiens? Rien ne pourra nous séparer. Rien ne pourra nous éloigner l'un de l'autre, même pas la mort. N'est-ce pas cela que Dieu nous donne, la vie éternelle? La mort ne nous séparera pas de Dieu. Elle nous rapprochera de Dieu. Du moins, je le souhaite à chacun. Ne le racontez pas dans Gath. Élevez. Élevez ceux qui ne vous aiment pas. Élevez-les. Donnez-leur du crédit. Donnez-leur des qualités. Élevez-les. Dieu aime ses ennemis. N'est-ce pas? Nous avons eu cet enseignement que nous devons aimer nos ennemis. Donc, nous devons nous attendre à ce que Dieu lui-même aime ses ennemis. Parce qu'il ne pourrait pas nous demander à nous d'aimer nos ennemis alors que lui les détruirait. Dieu aime ses ennemis. Aimer uniquement ceux qui nous aiment, c'est facile. Et si c'est ça notre vie aujourd'hui, alors nous sommes dans le péché. Puisque la parole de Dieu est claire. Aimez vos ennemis, ceux qui vous haïssent, ceux qui vous persécutent, ceux qui vous veulent du mal. Il y a un autre passage qu'on trouve dans Osée qui illustre bien cette attitude de Dieu. Chapitre 2 et au verset. Pour bien faire, il faudrait lire l'ensemble du chapitre. C'est un chapitre qui est divisé en deux parties. Je vais vous lire peut-être quelques versets de la première partie. En fait, je vais tout lire à partir du verset 4, ce sera plus clair. Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, car qui les a conçus s'est déshonoré. Car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin, avec des épines, et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai, je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait : c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je le châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, aller après ses amants et m'oublier, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je l'exterminerai. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisréel. Je planterai pour moi l'eau Ruchama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. En fait, c'est tellement merveilleux qu'on n'a pas nécessairement besoin de commenter. Mais on voit bien là que Dieu aime ses ennemis. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte la souffrance dans cette première partie. Rendez-vous compte l'infidélité de cette femme. Rendez-vous compte tout ce qu'il a dû subir. Et alors que on attend que le résultat de cela soit justement la punition. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, non pas pour l'assoiffer, mais pour lui parler, pour dire des choses à son cœur. Je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Les ennemis de Dieu, c'est nous. C'est son peuple qui est rebelle. Quelle raison avait-il pour nous aimer? Quelle raison Dieu pouvait-il trouver? Est-ce qu'il avait un seul élément qui lui permet de dire, mais en fin de compte, là, ils n'ont pas démérité, je vais les aimer à cause de ça? Pas une raison, pas une seule raison pour que Dieu, la pureté absolue, Dieu l'infini, Dieu le créateur de toutes choses, Dieu qui ne supporte pas le péché, pas une seule raison pour m'aimer, pour vous aimer. Dieu aime ses ennemis et nous demande de faire pareil. Si nous l'avons reçu, ce Dieu-là, s'il est venu par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, qu'il a fait de nous ses enfants, alors Dieu nous demande d'être de cet ordre-là. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous haïssent. Aimez, faites du bien. Je ne connais pas dans l'ordre à ceux qui vous persécutent. C'est dans Matthieu. Dieu l'a fait avant nous. Et c'est pour ça que nous pouvons le faire. Le Seigneur veut, si nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure de faire cela, il veut nous emmener dans le désert. Il veut nous attirer, nous séduire. N'est-ce pas, on le voit dans la première partie du chapitre, Dieu a essayé par la force, il a fait différentes choses qui n'ont pas marché. Mais Dieu sait que c'est l'amour qui va réussir. C'est l'attraction de son amour qui nous rapproche de lui. C'est parce qu'il nous aime que nous pouvons être délivrés de toute chose. Est-ce que vous voulez faire un pacte avec Dieu ce matin? Est-ce que vous voulez aller dans le désert? Est-ce que vous voulez le suivre pour qu'il parle à votre cœur et qu'il vous enseigne les choses? Et qu'il vous montre son amour, qu'il vous étreigne. Je propose que nous passions 5 minutes à prier et chacun à demander au Seigneur ce qu'il a besoin. Seigneur, merci. Toi qui es si grand, toi qui es si bon, toi qui es juste, Seigneur, toi qui te suffis à toi-même, tu as décidé de nous aimer, de mettre le comble à ton amour. Seigneur, tu veux nous emmener au désert pour évacuer tous les faux dieux, tous les baals auxquels nous nous remettons. Toutes ces bouées de sauvetage que nous avons mises en place, Seigneur, tu veux nous les enlever pour que dans la solitude, il ne reste que toi et moi, toi et eux. Seigneur, merci parce que tu veux signer un pacte avec nous, un serment. Tu veux faire de moi, de nous, ta fiancée pour toujours. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs ce matin et te recevoir comme jamais nous ne t'avons reçu. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons te demander pardon lorsque nous avons failli, lorsque nous n'avons pas élevé ce que nous n'aimons pas, lorsque nous n'avons pas dit du bien de ceux qui nous haïssent. Ô Dieu, nous voulons nous remettre à toi ce matin, afin, Seigneur, que tu viennes dans nos cœurs assainir les choses, et Seigneur, qu'au travers de tout cela, nous puissions aussi obtenir notre guérison. Priez chacun à voix haute, à voix basse, et que le Seigneur vous parle et vous bénisse.